Vous écoutez Active Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts.
Active
Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 137e numéro du Sainté Night Club. Bon, et ben voilà, la saison n'est pas terminée, mais ça ressemble quand même à un tournant de la fin de la saison. On n'a pas été mauvais à proprement parler, mais bon, assez friable psychologiquement. Pendant ce temps, Angers a battu 3 et on se retrouve à 4 points de la deuxième place. C'est pas encore perdu, hein, parce qu'il y a les barrages potentiellement, mais la montée directe s'éloigne, quoi. Et oui, voilà ce que j'aurais dit si jamais j'avais éteint ma télé à la 90e minute. Mais non, comme le public présent au stade, on reste jusqu'au bout, on se bat jusqu'au bout, et là, Irvine Cardona! D'abord l'égalisation qui fait se lever de sa chaise, ensuite la demi-seconde de doute en voyant l'Arseneur relancer hyper loin, et puis l'explosion, le saut en l'air, le slip sur la tête, et le sourire fixé sur le visage pour plusieurs jours quand à nouveau, Irvine Cardona! Et quel bijou! Il aurait pu mettre un pointu à 1 mètre de la ligne en se cassant la gueule, on aurait déjà été aux anges, mais là en plus, cette petite louche de caviar déposée au-dessus de la tête des Bordelais, mamma mia, c'est pour ça qu'on aime le foot, pour ce genre d'émotion intense. Alors oui, bienvenue dans ce nouveau numéro du SNC. Certes, on est toujours troisième, mais plus que jamais dans la course. Oui, il y a des points négatifs, mais le sentiment qui reste est délicieux. Oui, rien n'est fait, mais au moins, on a bien vibré. Alors pour débriefer cette pépite de scénario, j'ai rassemblé les meilleurs chroniqueurs. Tout d'abord, le chouchou de ce chaudron bouillant, Jesse Moulin. Bonsoir Jesse.
Salut à tous.
Comment tu vas, Jesse?
Ça va très bien. Avec un week-end comme ça, ça fait vraiment plaisir.
Ouais, c'est la puissance du football qui nous permet de faire un boost d'humeur là pour quelques heures, quelques jours. Ça fait bien plaisir.
On a tous senti les bénéfices de l'explosion du chaudron. Ça fait toujours du bien pour la semaine.
Avec nous également Sylvain Green Prospect. Bonsoir Sylvain.
Salut Keun, salut Jesse et Gab, bah écoute,
salut.
qu'est-ce que ça fait du bien, j'étais au stade, l'émotion, je crois que je suis toujours pas redescendu de mon petit nuage, j'espère ne pas redescendre demain soir puisque la suite arrive très vite, mais ah ouais, quel bonheur.
Ouais, la suite arrive très très vite, demain match contre Grenoble, on en parlera bien sûr dans cette émission. T'étais où dans le stade ?
J'étais en Henri Point. J'ai même emmené mon beau-père pour la première fois, qui est un amateur de football, mais qui n'était jamais allé à Geoffroy Guichard encore. Et je pense qu'il avait bien choisi son match pour une première.
Ouais, c'est clair. Mon père est professeur des écoles et il a un élève qui est allé voir le match et qui lui ont parlé des étoiles dans les yeux là aujourd'hui. C'était son premier match et je pense que ça, c'est le genre d'expérience quand c'est ton premier match au stade et que ça se passe comme ça. Je pense que c'est bon, t'as la fièvre définitivement. Et pour vous lire, bien sûr, ce soir dans le chat de YouTube et de Twitch, Gab est avec nous ce soir. Bonsoir Gab.
Bonsoir Keun, bonsoir Jesse, Sylvain, bonsoir le chat. J'espère que ça va aussi.
Bah ouais. Et toi, t'étais où pendant le match? Tu l'as regardé comment?
Eh bah, j'ai fait longtemps que je ne l'ai pas vu en direct. J'étais bénévole sur un trail tout le week-end.
Okay.
Donc ta superbe intro m'a donné les frissons de la fin du match, mais du coup j'ai bien regardé le résumé dès en arrivant de Bein dimanche et ouais, ça fait plaisir.
Et ben parfait. Eh bien écoutez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Bonjour bien sûr à vous tous qui êtes déjà présents dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et on va se lancer le débrief du match tout de suite. C'est parti, jingle.
Active Sainté Night Club, le débrief.
Alors au programme ce soir, évidemment, on va revenir sur ce match en longueur, on va en parler pendant une bonne demi-heure, on va parler du scénario, on va beaucoup parler de la fin du match, mais on parlera aussi du reste du match parce qu'il y a eu 90 minutes avant la folie. On parlera un petit peu de ce qui s'est passé ailleurs en Ligue 2, est-ce que Auxerre peut s'écrouler, est-ce que Angers peut résister, tout ça. On parlera du prochain match, donc puisque comme on le disait, c'est contre Grenoble dès demain. Et puis, bien sûr, on jouera avec le Synthé Night Club Challenge à la fin de l'émission. On va commencer tout simple, messieurs, on va parler émotion. Et je vais me tourner vers toi, Jesse. Est-ce que pour toi, c'est la plus belle victoire de la saison?
Oui, on peut dire oui, parce que en termes d'émotion, si on parle vraiment qu'en termes d'émotion, oui, c'est quelque chose d'incroyable, parce que on sait tous que dans la course à la montée, il fallait gagner, et la victoire arrive dans les 7-8 dernières minutes, avec des buts incroyables sur des exploits individuels. Donc voilà, quand on voit le chaudron exploser de telle sorte, c'est la plus belle victoire de la saison.
Ouais, Sylvain, t'es d'accord avec ça? Y a pas eu plus belle victoire cette saison?
Ah, c'est sûr que là, le scénario, il est quand même idéal. Hein. Et puis, au-delà de tout ça, moi, ce qui me donne de la satisfaction, c'est de voir la tournure des événements, d'être à 10 contre 11, de voir les Bordelais qui ont joué avec nos nerfs durant toute la partie. Et pour autant, le scénario, il finit positivement. Ça donne de l'espoir pour cette fin de saison, parce que tu as l'impression que c'est des signes du destin quand même.
Oui, c'est sûr que là, si le match se termine à 1-0 pour Bordeaux, on fait pas le même débrief aujourd'hui et on n'a pas la même fin de saison qui se précise. Donc j'imagine qu'on retient tous de ce match quand même le scénario incroyable de la fin. Mais avant toute chose, Gab, dans le chat, ils sont d'accord sur est-ce que c'est la plus belle victoire de la saison?
Bah écoute, je rattrape les messages là. Ça vient de commencer, mais alors on a Tommy Le Goat qui nous dit que c'est la plus belle victoire depuis 4 ans, tout simplement.
Ah ouais.
Donc voilà. On a Joe42 qui nous dit qu'il faut surtout retenir les 4 dernières minutes. Donc ça veut dire que ça, elle est peut-être quand même à nuancer cette victoire, mais qui nous dit évidemment, comme tout le monde l'a vu, bah le bruit quand les tribunes ont explosé, c'était assez dingue sur les buts de Cardona. On a Nico Saint-Paul qui nous dit que maintenant il ne faut plus regarder les autres, il faut juste vivre notre moment, notre fin de saison, sans compter sur Angers et Auxerre, et en allant chercher toutes les victoires qu'il faudra, et ensuite on verra ensemble ce qu'on pourra vivre en fin de saison. Et sur YouTube, on a Brian Stéphanois qui nous dit que c'est la plus belle victoire avec Auxerre, le 1-0, le 1-0 de il y a un ou deux mois là.
Qui nous a permis de commencer une belle série, ouais.
Ouais. Évidemment. On a Laurent Aubert qui nous dit qu'une victoire comme ça peut être le gros tournant pour la montée, même si. Qui dit même Angers, ça a dû leur mettre une tarte dans la gueule, je suis sûr, puisque bah, forcément Angers espérait prendre 4 points d'avance sans les.
Il y a beaucoup de joueurs d'Angers qui en ont parlé, ouais. Qui disaient que bon, ils avaient vu le match et qu'ils étaient heureux jusqu'à la 87e et que ça leur a quand même mis un coup, quoi.
Tu m'étonnes.
Et bah tant mieux. Et on a Christopher Glaudio aussi qui nous dit c'est sûrement la plus belle victoire après la demi-finale de Coupe de France contre Rennes il y a quelques années. Bah Jesse, tu pourras m'en parler mieux que personne, je pense. Et on a Ruik Ar qui nous dit que c'est une belle fin de match malgré l'exclusion de Nadé qui a perdu son sang-froid, mais je ne lui en veux pas. Nadé qui s'est d'ailleurs excusé sur les réseaux sociaux.
Eh ben, tout à fait. Justement, on parle des émotions positives, mais tout n'est pas bon dans ce match. Et effectivement, il y a eu l'exclusion de Michael Nadé. Je vais vous afficher les stats de Michael Nadé, à qui vous avez donné la note de 2, les supporters. Pour vous, c'est inexcusable ce qui s'est passé ou est-ce que vous comprenez un petit peu sa réaction et ce qui s'est passé, Sylvain, t'en penses quoi?
On pense qu'il n'a pas à faire ça, c'est une certitude, d'autant plus que si en revoyant les images, tu vois qu'une première fois il perd ses nerfs, qu'il est rattrapé par Chambost, je crois, et un autre, Monconduit, il me semble. Les deux, ils le rattrapent, ils le ressortent de l'histoire.
Il y a Masson aussi qui essaye de le sortir, ouais.
Ouais, et Simba, il sait clairement ce qu'il fait, c'est un joueur expérimenté, il sait que, il voit qu'il est, en pression, qu'il a déjà un carton jaune, qu'il suffit de pas grand chose pour que ça tourne au vinaigre, et voilà. Après, là où quand même je comprends Nadé, c'est qu'à un moment donné, le comportement des Bordelais, on y reviendra peut-être, mais sincèrement, même vu du stade, c'était insupportable à partir du moment où ils ont marqué les fautes, il restait une heure par terre, Honnêtement, moi je comprends qu'à un moment donné, Moueffec qui pète les plombs et dit ça y est, on leur rend plus le ballon. Alors ça n'excuse en rien le geste de Nadé, il devait pas faire ça. On a besoin de lui en plus. Sa deuxième partie de saison est quand même de très très bonne facture. Donc on a besoin de lui dans ce sprint final. Et il n'a pas à faire ça, on est bien d'accord. Mais c'est à tempérer parce que franchement, le comportement des Bordelais était vraiment exécrable.
Ouais, Jesse, tu le rejoins là-dessus. Toi qui as été sur le terrain, on le sait hein, que ça fait partie du jeu, le vice, essayer de provoquer l'adversaire quand tu sais qu'il peut être déstabilisé. Mais est-ce que tu comprends, toi, la réaction de Nadé?
Ouais, non, comme dit Sylvain, c'est sûr que c'est très énervant, mais il y a des erreurs on dit toujours qu'on apprend de nos erreurs. Mais là, je suis sûr que Mika ne refera plus la même erreur. Mais sauf qu'il aurait dû apprendre avant même de le faire, quoi. Il y va une fois, deux fois. Il sait qu'il a un jaune, il râle, il fait voir son mécontentement à l'arbitre. Une fois qu'il est reparti derrière, de lui-même, il doit arrêter. Il doit dire, bon, c'est bon, j'ai un jaune, je vais pas aller. Il sait très bien les conséquences de pousser un joueur de telle manière. Il sait très bien que ça vaut au moins un jaune.
C'est ça, même s'il n'avait pas de jaune, il aurait
Voilà.
pu avoir direct le rouge, quoi.
Voilà. Donc, c'est même, voilà, comme tu dis, même sans prendre le premier jaune, il aurait pu prendre un rouge direct. Donc, c'est déjà bien qu'il prenne un deuxième jaune, parce que devant la commission, il va prendre moins de matchs. Mais il aurait pu prendre un rouge direct. Et de lui-même, ça commence à être un joueur expérimenté. On est en fin de saison, on n'est pas sur un début de saison. Sur une de ses premières saisons en pro, il le sait. Comme tu disais, en face, c'est un joueur expérimenté. Mais en gros, voilà, il l'a mis dans sa poche. Il savait que tout le monde était tendu et avait envie de gagner à ce moment-là. Mika, il doit pas faire ça. Voilà. Il doit y aller une fois, montrer son mécontentement, en pensant que voilà, ça vaut qu'on a un jaune et qu'il faut pas en faire trop. Lui, il va une fois déjà ses limites. Il retourne et il va une deuxième fois, c'était sûr. C'est obligé.
Ouais, parce qu'en plus, sur la première fois, il peut prendre déjà
La première fois, il peut
son
prendre. Ça
premier jaune.
vaut un jaune déjà.
Ouais,
Ça vaut un jaune. Il le prend pas
c'est
parce qu'il
clair.
a déjà un jaune. Parce que l'arbitre, il se dit, bon, je peux pas lui en mettre un parce que sinon c'est rouge. Et après, bon, il dit, bon, bah, tant pis, il n'a pas compris, je lui mets deuxième jaune, c'est rouge, et puis tu
C'est
sors.
ça,
Voilà.
exactement.
Et comme on
Exactement.
disait avant l'émission, heureusement qu'il y a cette fin de match,
C'est clair.
parce que sinon, le coupable, il est tout trouvé. Hein. Le coupable, c'est Mika, et les conséquences pour lui sur sa fin de saison, ce n'est pas les mêmes. Au niveau de la pression, du public, et même au niveau du club, ce n'est pas pareil. Donc, je pense qu'il peut remercier Irvine sur ce coup-là, et l'équipe. Parce que si on perd 1-0 ce match, le coupable, même si c'est peut-être pas lui sur le plan du jeu, en tout
C'est
cas,
lui qu'on retient.
c'est lui qu'on retient. Et donc, je pense qu'il devait être content lui aussi quand il a vu les deux exploits individuels d'Irvine.
Et c'est vrai que vous parliez du moment où il retourne une deuxième fois. Moi, là, quand j'étais en train de regarder le match, je me suis dit, bon, là, à ce moment-là, il sait qu'il est expulsé. Donc, foutu pour foutu, il se dit, j'y retourne. Allez, je vais au bout de mon délire.
Ouais, c'est là où justement c'est pas
Dommage.
foutu pour foutu, faut voir un peu plus sur du long terme. Là, ce match-là, ok, bon, bah c'est terminé, mais pense à pas prendre 5-6 matchs, parce que si tu prends 5-6 matchs, la saison elle est finie. Et quand tu vois le trio, Batoubine-Sika, Briançon, Nadé, comment ils se tirent la bourre les trois, et quand je vois le
Eh
match de Briançon, qui était peut-être celui qui était un peu mis sur le côté ces derniers matchs, il a été exceptionnel hein, ce week-end. Sincèrement, le match de Briançon, c'est peut-être le meilleur match qu'il ait fait sous le maillot stéphanois ce week-end. Il
c'est vrai.
sauve deux buts tout faits. Hein. Il sauve
Mais
deux
c'est
buts tout
pour ça
faits quand il
que
dribble Sonner et quand il a la balle en profondeur après le
Mais
1.
c'est pour ça que
Vraiment.
c'est encore plus rageant pour Mika, c'est que il revient, il était à la cave un peu, il était vraiment dans une mauvaise période. Le coach le remet, il est bon, il marque.
Ah, allô?
On a perdu
Pardon, vous
Jessie.
m'entendez?
Ah oui, là c'est bon.
Ouais, je suis là. C'était un élément qui était redevenu quasiment indispensable de la défense. Et il fait ça et il perd peut-être sa place sur sa fin de saison.
Ouais.
Donc pour lui, individuellement, c'est vraiment un geste vraiment qui a de lourdes conséquences, peut-être.
Gab, est-ce que tu vois plutôt de l'indulgence dans le chat de YouTube et de Twitch, ou est-ce que les gens sont plutôt durs avec Nadé?
Bah, on est plutôt dur hein, avec Nadé, et donc on a Tommy Legault qui nous dit que c'est clairement une grosse faute professionnelle. Pascal qui nous dit que bah, c'est impossible de pas en vouloir à Nadé, surtout surtout si on avait perdu, évidemment, comme l'a dit Jesse. Et on a pas mal de monde qui nous dit, bah, comme vous l'avez bien présenté, qu'il revient en plus une seconde fois. Au début, les gars arrivent à l'arrêter et il y retourne. Donc là, forcément, bah, le jaune est complètement logique. On a aussi, du coup, beaucoup de supporters qui parlent du comportement des Bordelais, comme vous avez dit, qui était assez anti-sportif, on va dire. Donc forcément,
Après, il
ça
menait à
pétrit
0, ça
là.
se.
On aurait fait pareil, hein,
Bien
peut-être.
sûr.
Hein.
Mais ça.
Ouais, voilà,
Donc forcément, ça a pu créer un petit peu d'énervement. On a SonnyTone21 qui nous dit, c'est incompréhensible sa réaction. J'arrive pas à me dire qu'on a tous les éléments pour analyser l'expulsion. Ok, Bordeaux a pourri le match, mais c'est plutôt classique, justement, ouais, comme vient de dire Jesse. Et on a Céline qui essaye quand même de faire un petit peu l'avocat du diable, on va dire. Il est jeune, il manque d'expérience, la pression du match, l'erreur est humaine. Cette bêtise va le faire grandir, il faut passer à autre chose et ensemble pousser, et ensemble, joueurs, staff et supporters, pousser derrière les verts. Donc voilà. Et sur YouTube, on souligne le match exceptionnel de Briançon, comme vous l'avez dit. Michael Estra qui nous dit Briançon exceptionnel. Étienne Pro, Briançon est bon, surtout dans le mental de guerrier. On avait besoin de ce type de personne. Donc voilà. Et Briançon a été énorme aussi pour Laurent.
Ok, bon, bah, alors ça c'était pour le point principal négatif du match, effectivement. Mais on ressort quand même de ce match avec des étoiles plein les yeux. Et ces étoiles, on les doit à Irvine Cardona, qui fait une demi-saison de folie et qui nous offre le match complètement. Je bug un peu parce que je cherche ses stats, voilà, sur ce match. La question c'est où est-ce qu'on va la mettre la statue aux alentours de Geoffroy Guichard là. C'est incroyable encore une fois la prestation qu'il fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation dans l'ensemble si on enlève ces deux derniers buts de fin qui sont magistraux? Sylvain?
Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, même de façon plus globale. Aujourd'hui, c'est là que tu vois ce qu'est un joueur en confiance, en fait. La confiance, comment ça peut métamorphoser un joueur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui était sur des saisons un peu en dents de scie, avec même des blessures, un temps de jeu très limité. Quand tu parles un peu à des suiveurs de Brest, ou même les suiveurs allemands, sur ce qu'ils pensent du joueur, bah, je peux te dire que c'est pas du tout ce que nous on pense du joueur. C'est voilà. Concernant son match, on retient évidemment son gros raté au quart d'heure, 20 minutes de jeu. Il en a une, c'est la plus facile des trois d'ailleurs qu'il a, c'est celle qui ne marque pas. Voilà. La statue, on lui donnera quand on sera en Ligue 1,
Bien sûr.
si je peux me permettre,
C'était une façon de
et
parler.
qu'il finisse le boulot. Ouais, bien sûr, je sais, mais je te charrie, mais c'est voilà, qu'il finisse le boulot. Mais en tout cas, son passage à la SSE, qui j'espère pourra être un peu plus long que ce qu'on espère, restera très 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 positif, c'est
Ouais.
certain.
Oui, on rappelle quand même vite fait que effectivement Irvine Cardona est en prêt, il nous vient de Augsbourg et il est sans option d'achat. Donc c'est pas sûr du tout qu'on puisse le conserver, mais bon, on sait jamais s'il y a reprise du club, s'il y a montée en Ligue 1, si les étoiles s'alignent, il y a peut-être un monde où il pourra rester avec nous. Le joueur, lui, il aura peut-être aussi envie de rester dans ce projet-là. Jesse, sur la globalité un petit peu plus du match d'Irvine Cardona et la période qu'il est en train de vivre sous les couleurs vertes.
Ouais, bah, pour commencer le match, c'est un peu en dents de scie. C'est vrai qu'il a ce gros loupé en début de match. On voit vraiment qu'il s'en veut, il tombe à genoux, le pauvre. Et en plus, il y avait 0-0, c'est une occasion pour mener le match. Voilà. Mais après, c'était un peu en dents de scie. Et puis, j'ai cru voir des articles comme quoi le coach l'avait dit juste avant le but de se repositionner un peu dans l'axe, là où beaucoup de monde voit qu'il est le meilleur, parce que comme le premier but, il a cette façon d'emmener tout le monde dans l'axe et de revenir sur son pied droit pour frapper. Il est vraiment, voilà, il a un coup de rein qui est étonnant. Il est capable d'exploits, on le voit. Comme le premier but, ok, bon, le deuxième but, il est incroyable. On se demande même comment il a pensé à faire ça. Parce
Instinct.
que c'est vraiment incroyable déjà de faire le geste et puis de le réaliser, de mettre le but, c'est encore plus fou. Pareil, s'il prend pas sa chance à ce moment-là, parce qu'il frappe, mais je crois qu'il y a Mboukou qui est sur sa droite, il peut limite lui glisser. Et il décide vraiment de prendre l'action en main et de frapper. Comme disait tout à l'heure Sylvain, je crois, c'est vraiment une question de confiance parce que la frappe, elle n'est pas incroyable, mais le fait de la tenter à cet endroit-là avec des joueurs devant, ça surprend le gardien et ça finit au fond. Peut-être qu'avec un peu moins de confiance, eh bien, il passerait le ballon, il ferait à moitié le travail et puis il passerait la main pour la finition. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est en pleine confiance. Et là, bon, avec les deux buts qu'il a mis, je pense que la confiance, elle doit être vraiment au max. Et après, sur sa saison, ça se joue vraiment à rien parce que sur ses premiers matchs, il a des occasions, il marque pas. On sent qu'il est pas loin du doute, ou que même il est dans le doute. C'est pas la coqueluche de Geoffroy Guichard. Et puis il met ce premier but là sur corner, je crois, ou je m'en rappelle plus contre qui c'était. Et depuis, eh ben on sent que la confiance elle est au maximum et qu'il tente, il est actif. C'est un élément indispensable de l'équipe maintenant, quoi. On sent que à tout moment ça peut venir de lui. Et les joueurs même le cherchent même sur le terrain.
Et alors, on a commencé à parler un petit peu de l'animation offensive. On a commencé le match sans Sissoko, donc qui s'est blessé, hein, qui a une lésion musculaire. On ne sait pas encore quelle sera exactement la durée de son indisponibilité. Wadji a fait son retour. J'ai l'impression que la dernière fois qu'il a joué, j'avais encore des dents de lait. Et il a fait une plutôt belle entrée. Mais tiens, Sylvain, toi, au niveau de l'animation offensive, je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, j'étais un peu inquiet au début du match parce qu'on avait vu sur plusieurs rencontres que Cardona en pointe avec des ailiers comme Mboukou et Cafaro sur les côtés, c'était pas ce qui marchait le mieux parce qu'on manquait de points de fixation sur la ligne d'attaque. Est-ce que le retour de Wadji, pour toi, il doit être entre guillemets un petit peu forcé et que Wadji doit d'ores et déjà être titulaire demain à Grenoble.
Alors, il y a beaucoup de questions. Pour commencer, au niveau de l'animation, je trouve que le deuxième but, ça a été très très peu mentionné, mais le travail que fait Wadji au tout départ sur le dégagement de l'Arsenault,
Le contrôle est
casse-croûte,
magnifique,
le
ouais.
ballon, le contrôle, déjà la protection pour que le défenseur il soit pas devant lui, il lui met la main sur le torse pour lui dire « Attends, je dois faire quelque chose », il met le ballon au sol, il trouve Tardieu. Ça, c'est typiquement le rôle, je trouve, d'un numéro 9. Et je ne suis pas certain que Cardona excelle dans ce registre-là. Je trouve que Cardona, il est plus mis en valeur quand il peut se mettre face au jeu, dans des appels dans la profondeur, dans le dos de la défense, etc. Donc, je trouve que le retour de Wadji va forcément être positif. De là à envisager de le voir titulaire dès mardi, dès demain, du coup. J'émets des doutes. Pourquoi? Parce qu'on connaît la saison qu'il a vécue, ça reste fragile et ça reste malgré tout. Sissoko, comme tu l'as justement dit, on ne sait pas combien de temps il est absent, donc si on perd Wadji encore à nouveau, ça peut quand même être difficile en termes de profondeur, en termes de variété de profil sur le secteur offensif. On a quand même marqué deux buts à partir du moment où Wadji était sur le terrain et que Cardona a été replacé sur son côté droit. Il faut pas l'oublier non plus. Alors, il faut pas être de mauvaise foi. On a eu des occasions avant ça. On aurait pu marquer avant ça quand Cardona jouait en numéro 9. L'animation, elle était bonne. Maintenant, l'efficacité, on l'a quand même eu au moment où Hadji était sur le terrain. Et j'aurais tellement voulu qu'il transforme l'occasion qu'il a à la 98e, là où d'ailleurs il doit faire bien mieux, parce que ça aurait peut-être été aussi pour lui un déclic psychologique dont il a besoin, j'imagine, pour enfin se dire que sa saison est lancée
C'est
à la
vrai qu'il
33e journée.
contrôle un peu long et il rate un peu le but du 3-1 là, ouais, sur la fin du match. Jesse, toi, sur l'animation offensive, le positionnement de Cardona, alors On peut rajouter qu'au final, avec Cardona, Mbeuku, Cafaro, ça a énormément permuté, mais sur le papier, en tout cas, c'était Cardona devant et Cafaro et Mbeuku sur les côtés. Ça peut te convenir, toi, sur les matchs qui arrivent?
Bah, déjà, Cafaro, à gauche, j'aime beaucoup parce qu'il revient beaucoup sur son pied droit et il envoie vraiment des jolis centres qui sont dangereux à chaque fois. Comme l'occasion qu'a Cardona à la 26e qui loupe, c'est sur un centre de, bon, un pressing, mais un centre après de Cafaro et sur le renvoi, Cardona à la balle. Après, c'est sûr que, comme tu disais, Sylvain, je crois, Cardona est beaucoup plus à l'aise quand il décroche, qu'il arrive à être un peu seul, qu'il arrive à se retourner ou à prendre l'espace. C'est sûr qu'en point de fixation, c'est physiquement, c'est quand même pas Awadji. Il est moins à l'aise dans ce rôle de d'attaquant en pivot, quoi, en soutien. Après, Mbeuku, il était un peu moins bien sur ce match-là, mais il a quand même il est quand même assez dynamique et il essaye quand même de percuter et il amène beaucoup de dynamisme. Même si c'est un joueur que j'aime bien aussi en rentrant, parce que justement, il a cette faculté à détonner sur ses premiers ballons, ses premiers appuis. Donc voilà, même s'il était moins bien, je pense que ça reste un joueur qui va nous faire du bien en fin de saison. Et après, on parle de Wadji qui est fragile, mais il faut pas oublier que Cardona enchaîne les matchs et on a 3 matchs dans la semaine.
Oui.
Donc il va falloir faire un choix et mettre des joueurs en forme et aussi mettre des joueurs pour qu'il y en ait qui se pètent pas et qui soient là pour finir la saison. Parce que là, on enchaîne 3 matchs et dans la situation dans laquelle est la SSE, c'est 3 matchs où il va falloir mettre de l'intensité, forcément marquer des buts. Et se donner à 200% comme le match contre Bordeaux qui a dû laisser des traces parce que physiquement et nerveusement, ça devait être costaud.
Tout à fait.
Et
C'est vrai.
j'aimerais juste pour
Vas-y.
rebondir sur ça, je suis d'accord avec Jesse. Par contre, je pense qu'un mec comme Cardona, par exemple, aura un coffre plus important qu'un mec comme Cafaro pour jouer 3 matchs dans une semaine. Je pense que Cardona sera plus à même d'encaisser ça que Cafaro. Après, dans un monde idéal, qui peut-être ne sera pas le cas, il faudrait qu'on arrive à plier le match rapidement à Grenoble et puis qu'à la 60-70e, ils viennent s'asseoir sur le banc et qu'ils puissent enchaîner contre Caen. Mais
Oh,
bon, après, ça,
il
c'est...
va y avoir de la gestion, c'est sûr.
Ouais.
Oui, parce qu'il pourra pas courir un marathon tous les 3 jours et ne pas être fatigué non plus, ça c'est sûr. Avant qu'on prenne l'avis du chat sur Wadji et les différents postes offensifs, j'ai vu une question pour Jesse. En tant que gardien, je te la pose parce qu'on en a parlé un petit peu avant
Ouais.
l'émission, tu réagis comment à un tel but à ce moment du match et surtout tu penses quoi de la sortie du gardien bordelais sur le deuxième but donc?
Bon, après, voilà, c'est en tant que gardien, j'ai toujours du mal à incriminer les gardiens que je vois ou voilà que j'analyse parce que je sais comment c'est dur sur le match, sur l'action même, il se passe tellement de choses, ils voient des choses différentes sûrement de nous quand on est en haut ou à la télé. Mais c'est vrai que sur le deuxième but, quand on regarde l'action, on a la sensation que le gardien donne un peu la solution ou l'idée à Irvine Cardona de le lober parce que il n'y a plus personne dans la cage qui est capable de mettre la main, ce qui est le plus facile pour un gardien que de mettre la tête pour un défenseur en reculant. Et on voit qu'il y a encore des joueurs devant le gardien. Donc, on dit toujours qu'on ne doit pas être devant nos défenseurs, évidemment. S'il y a des défenseurs qui sont devant nous, on doit rester dans la. Le gardien doit normalement rester dans la cage pour, voilà, pour avoir ses mains et faire des arrêts. Donc, c'est vrai que de comment c'est, on voit à la télé et dans le stade, quand on voit le replay, et qu'on voit ce geste fou. C'est vrai que le gardien donne l'idée et donne un peu la solution de mettre derrière lui parce que il laisse beaucoup d'espace entre lui et la cage. Et après, bon, le geste est magnifique aussi, hein. Il peut sur je sais pas qui est capable de refaire ce geste et combien de fois
Ouais.
il est capable de le refaire et de le mettre.
Oui.
Voilà,
Oui. Le
c'est
95e en plus.
ouais, voilà, 95e. Voilà, le gardien reste malheureux quand même parce que ça part il essaie de mettre la pression sur l'attaquant, ça part d'un bon sentiment. Mais il laisse de l'espace derrière lui et qui laisse de l'espace pour un mec bon techniquement qui est capable de tenter un geste comme ça, quoi.
Par rapport aux joueurs de la ligne d'attaque, Gab, j'ai vu que ça parlait de Wadji, de Cafaro, de Mboukou. Quelle a été un petit peu l'impression qui ressort de notre ligne offensive, à part Cardona, bien sûr?
Évidemment, Cardona, ça le félicite forcément pour son doublé, c'est logique. Mais du coup, sur le reste, on a pas mal de critiques sur Cafaro,
Ok.
qui, pour beaucoup, notamment, on a Barça RDZ qui nous dit que Cafaro manque de coffre. On a Joss Randall qu'on salue, qui est d'accord avec Nico Saint-Paul sur un message qui était un petit peu plus haut et qui trouve aussi que Cafaro, c'est très insuffisant. Très irrégulier aussi, je pense. On a Mboukou qui revient beaucoup sur plutôt des entrées en sortie de banc qui ferait plaisir en deuxième partie de match, on va dire, quand les défenses sont fatiguées. Et on a pas mal de messages forcément sur le retour de Wadji. On a Étienne Pro sur YouTube qui nous dit Wadji et Cardona, ça peut marcher ensemble. On avait du Wadji, forcément, qui va nous apporter beaucoup de profondeur par rapport à Cardona qui fait beaucoup d'efforts, mais pas forcément toujours en profondeur. Là, on aura une nouvelle corde à notre arc, pardon. Après, on a quand même Patrice qui partage, c'est Sylvain, je crois, qui parlait de ça, de pas mettre Wadji trop vite dès demain, notamment. Ouais, on a Patrice qui nous dit Wadji est encore trop court, je le vois plus comme un joker de fin de match. Il faut qu'il enchaîne les entrées en fin de match pour retrouver du rythme. C'est partagé par Pascal qui nous dit c'est risqué de faire jouer Wadji d'entrée à Grenoble,
Ouais.
puisque on a vu cette saison que dès qu'il est revenu, malheureusement, ça s'est vite reblessé. Et justement, par rapport à Sylvain qui suit pas mal les jeunes de Saint-Étienne, on a Rara 35-32 qui nous dit dommage que Enzo Maïa soit blessé, puisqu'il aurait sûrement fait des groupes pro pour pallier à la blessure de Sissoko. Je ne sais pas si Sylvain. Tu l'aurais vu peut-être avoir des minutes s'il n'était pas blessé.
Il avait fait un groupe contre le Paris FC. Il était dans le groupe contre le Paris FC quand on avait fait 0-0. Il n'était pas rentré
Ouais.
malheureusement. Après, c'est sûr que c'est un profil différent. La chance qu'il avait contre, enfin, la chance contre le Paris FC, Wadji était absent. Donc ça ouvrait une possibilité offensive. Après, est-ce qu'il aurait été pris, je ne sais pas. En tout cas, c'est un profil qu'on va voir. C'est un profil qu'on finira par voir parce que c'est un joueur qui est très. Qui est particulier, qui est atypique, il fait 1 m 80, plus d'1 m 95, il va à 2000 à l'heure, mais vraiment 2000 à l'heure. Et je pense que c'est un garçon qu'on verra tôt ou tard, pas cette année, l'année prochaine, en préparation au moins.
Il a quel
Et
âge?
voilà, parce que je pense il est 2006, donc
Ok. 18.
il a eu 18 ans là, il y a peu, et il vient de signer professionnel pour 3 saisons, jusqu'en 2027. Donc voilà, c'est. Quoi qu'il en soit, la question elle se pose pas. Il était, je sais pas si vous l'avez vu quand les joueurs ont fait la fête après le match, mais il était en béquille
Ouais.
avec les joueurs. Il y avait Amougou, il y avait Maïla, il y avait Karim Cissé aussi. Voilà, c'est pas pour tout de suite son retour et j'ai bien peur que ça soit trop tard pour revenir physiquement au niveau et postuler pour quelque chose.
Bon, on en parlait en début d'émission du fait que, mine de rien, la différence entre une victoire et une défaite face à Bordeaux, ça change complètement la fin de saison. On va faire rapidement un petit tour des stades de Ligue 2. Je vais vous afficher sur le live hop, le calendrier de la 34e journée donc, qui a lieu demain, où vous pouvez voir que Auxerre reçoit Laval et que Angers, ils sont où? Je les trouve plus. Là, ils vont à Guingamp. Et je vous affiche également le sprint final, donc avec le nombre de points de chaque équipe et les différents matchs qu'il leur reste à jouer. On va commencer avec Auxerre, qui est dans une phase vraiment de moins bien là ces derniers jours. Est-ce que pour vous, Auxerre qui paraissait intouchable il y a encore un mois, est-ce que Auxerre, selon toi, Jesse, pourrait éventuellement s'écrouler?
Non, je pense pas. Après,
Ils
on voit
ont un vrai programme, hein. Ils
que.
reçoivent le Stade
Ouais.
Lavallois, ils reçoivent le Paris FC, ils jouent Amiens. Ils ont quand même une fin de saison pas évidente, évidente.
De toute façon, qu'on joue ces équipes-là ou qu'on joue QV, 3, Annecy, Concarneau qui jouent leur vie, ça reste des matchs difficiles à cette période-là de la saison. On va toujours rencontrer quelqu'un, soit qui joue la montée, ou enfin maintenant, comme il y a 5 places devant et ça peut même jouer les places de.
De barrage.
C'est de barrage. Et avec les descentes, il y a quelqu'un qui va jouer le maintien. C'est rare de jouer les 4 des 5 derniers matchs avec que des ventres mous qui n'ont plus rien à jouer. Donc tous les matchs, de toute façon, seront durs. Après, on voit que dans les 3 premiers, Auxerre a perdu, mais Saint-Étienne était mené et Angers était mené à la mi-temps aussi. Et voilà, donc Auxerre est moins bien parce qu'ils ont perdu, mais ça aurait pu arriver à Saint-Étienne, ça aurait pu arriver à Angers aussi. Moi, personnellement, ils ont l'effectif, je trouve, pour bien finir la saison. Et puis, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de finir deuxième.
Ouais.
J'ai envie de dire, c'est vraiment le bonus d'être champion, mais l'objectif ultime, c'est la Ligue 1, que ce soit premier ou deuxième. Voilà, et on est à un point de la deuxième place en tout cas.
Il y a Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, cette semaine, qui donnait une interview où il expliquait que effectivement c'était une Ligue 2 passionnante, mais pas forcément d'un niveau extraordinaire où chaque équipe pouvait battre chaque autre équipe. Sylvain, toi, tu rejoins Jesse sur le fait que, bon, même s'ils sont un petit peu moins bien, ils devraient tenir jusqu'à la fin avec ces 4 points d'avance et ce goal average très positif.
Oui, parce qu'en fait, du coup, par rapport à nous, ils ont 5 points, on peut dire d'avance, puisque le goal average, ils ont quasiment plus 9, je crois, ou plus 10 sur nous en termes de
Ouais,
buts,
plus
si je
10.
dis pas de bêtises. Voilà, donc ils ont quasiment 5 points d'avance. Après, encore une fois, il vaut mieux être dans la position d'Auxerre que de Saint-Étienne, hein, là, à l'instant T. Hein. Ouais, on dit est-ce qu'ils s'effondrent, est-ce qu'ils s'effondrent pas. En tout cas, à 5 matchs de la fin, ils ont 3 points d'avance sur le deuxième et 4 sur le troisième. Donc voilà, après. J'ai envie de te dire que les trois équipes sont quand même extrêmement fatiguées. Angers, ils vont gagner à 3 contre une équipe de 3 qui est quand même en grande, grande difficulté. Jessy, je sais que tu as joué là-bas, excuse-moi, mais je pense que ça fait partie des 4 équipes les plus faibles du championnat en termes de rendu. Autant je trouvais que l'effectif était bon, autant en termes d'état d'esprit, ça fonctionne pas du tout. Ils ont été en grande difficulté. Et là, le déplacement d'Angers, Guingamp, Paris FC, ça va être très, 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 très dur. J'espère que nous, on va être capable de faire le boulot contre Grenoble et Caen, parce que je pourrais parier très cher qu'ils ne feront pas 6 sur 6 lors des 2 prochains matchs Angers. Et après. Concernant Auxerre, ils vont aussi jouer le Paris FC, qui, à mon avis, est la plus difficile équipe à jouer en ce moment. Ils sont en pleine bourre. Ils sont au moment où il faut être bien, c'est-à-dire en fin de saison, où il va y avoir les barrages, etc. Ils arrivent, entre guillemets, au sommet de leur forme. C'est une équipe que je crains beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais pas qu'on se retrouve troisième, parce que je pense que c'est l'équipe qu'on jouera
Ouais.
si on finit troisième, quoi.
Pour Angers, leur capacité de résistance, Jesse, tu la sens difficile toi aussi
Bah,
sur leur
le
programme de
problème
fin de
d'Angers,
saison.
c'est qu'à un moment donné, ils avaient 14 points d'avance quand même.
C'est fou, hein.
Donc, de toutes les équipes dans les 5 premiers, ceux qui peuvent avoir le plus de, pas dire de regrets parce que c'est pas fini, mais ceux qui ont le plus de soucis à se faire, même si peut-être ils voilent un peu la face, c'est Angers, parce que en fait, petit à petit, ils perdent tous leurs acquis. Et là, bon, ils gagnent contre 3, mais comme tu dis, 3, c'était quand même l'équipe où beaucoup d'observateurs le pensent, reste une équipe assez faible de Ligue 2, voire très faible.
Après, nous, on a perdu
Et
contre Ajaccio, hein.
ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'était chez eux, c'était en
Ouais.
Corse,
Ah, Ajaccio.
il y a eu des faits de
Avec un
jeu.
arbitrage catastrophique. Ouais, grave.
Voilà, donc c'est quand même pas pareil, parce que. Voilà, Angers c'était 3, 1-0 à la mi-temps. Bon, ils gagnent, mais c'était ric-rac. Voilà, donc c'est pour ça que on parle d'Auxerre, mais moi je préfère voir Angers et me dire que on n'est qu'à un point. Et comme tu dis, ils vont pas faire 5 sur 5. Ça c'est sûr. Peut-être nous non plus, mais on est, je pense, sur une meilleure dynamique qu'eux.
Je vous affiche le classement de la phase retour. Là, on voit que Angers, sur la phase retour, ils sont 13e. Ouais, c'est assez compliqué pour eux. Dans le chat, Gab, sur la potentielle dégringolade ou la potentielle résistance d'Angers et Auxerre, ça dit quoi?
On a Pascal sur Twitch qui se pose la question, est-ce que Auxerre s'est pas vu trop vite en Ligue 1? Voilà, parce que bah, forcément, le beau jeu, l'avance qu'ils avaient, bah, là, avec deux défaites de suite, bah, y a des doutes qui reviennent. Et bah, comme vous disiez, le Paris FC qui en ce moment est en pleine bourre, on a Auxerre et Angers qui vont les affronter, donc potentiellement ils vont perdre des points là-dessus. Après, on a quand même Barça RDZ qui estime que c'est Saint-Étienne qui a le calendrier le plus difficile. Même si, comme on disait, en Ligue 2, de toute manière, tout le monde peut taper tout le monde. Donc ça ne veut plus dire grand-chose à ce moment-là de la saison. Et on a Nico Saint-Paul qui nous prédit une dernière journée stressante. Pour lui, tout se jouera sur la dernière journée. On voit que nous, on ira à QRM, Angers sera contre Dunkerque et Auxerre contre Concarneau. On verra si jamais ça se joue à ce moment-là. Et on a Patrice qui nous met en garde sur Rodez. Attention à Rodez, j'habite Rodez et je vois tous leurs matchs. L'équipe est en feu actuellement avec un gros potentiel offensif. Ils ont perdu à Caen contre le cours du jeu, mais ils ont sorti un très gros match contre Auxerre qu'ils ont battu 2-0. Demain, ils jouent contre le Paris FC. S'ils gagnent, ils se replacent à la quatrième place. Ils n'auront plus rien à perdre. Rodez qu'on jouera à l'avant-dernière journée,
Ouais.
le jour de l'anniversaire des 90 ans fêtés par les Magic Fans d'ailleurs. Et on a Leïla qui nous dit il faut déjà passer cette semaine, voir comment on va enchaîner physiquement avec les trois matchs et on se projettera sur la suite bah, la semaine
Ouais.
prochaine.
Oui, bah oui, la suite qui arrivera très vite, hein, puisque ensuite il restera que deux matchs. D'ailleurs, on termine la saison à l'extérieur, un peu dommage, un peu dommage. Mais malgré tout, vis-à-vis de tout ce qu'on dit, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, mais Jesse, pour toi, le top 5, il est quand même assuré. Quoi, même si on n'arrive pas à
Oui.
choper la montée directe, on a
Ouais,
quand
ouais.
même le top 5 assuré.
Bah, je pense que le top 5 est assuré. Après, la troisième place est quand même très importante parce que déjà, ça nous a un match
Ouais.
avant d'arriver au barrage. Et surtout, ça nous, je crois, hein, si je suis pas fou, qu'on reçoit. On est en troisième, c'est
C'est
nous
ça.
qui
C'est
recevons
ça.
le vainqueur. Donc ça, c'est déjà quand même un gros avantage de jouer à Geoffroy Guichard un match de barrage. Dans la dynamique que l'on est. C'est différent d'il y a 2 ans où on joue le match de barrage, mais pour redescendre. Là, on joue pour monter. La dynamique avec les supporters est différente. Donc, c'est pour ça que cette troisième place est hyper importante et qu'il ne faut pas relâcher et se dire, bon, c'est bon, on est barragiste, on est au moins cinquième. Non, on est, pas parce qu'on est cinquième qu'on est dans les clous. Et voilà, il ne faut pas oublier que si on est quatrième ou cinquième, ça rajoute un match et qu'on ne reçoit pas, surtout si on est cinquième.
C'est vrai que le parcours
Donc,
du combattant pour monter en Ligue 1 quand t'es quatrième ou cinquième, il est loin d'être de toute
Ouais, il y
simplicité.
a quand même 4 matchs pour accéder à la Ligue 1. Après, c'est
Ouais.
énorme, hein, sur une fin de saison déjà bien remplie. Déjà, la troisième place, je pense que c'est pas l'objectif, mais il faut pas moins. Et en espérant maintenant que, comme on disait, Angers fasse un faux pas et nous de monter sur tout le monde. Il faut, je pense que les joueurs ont pris mesure de ce que c'était la Ligue 1 pour le club. Moi je suis persuadé que les joueurs vont se mettre minables pour aller chercher cette deuxième place et ce qui nous permettra au moins d'assurer la troisième.
Yes. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on a bien parlé du match et de nos adversaires directs. Maintenant, il est temps de se tourner un petit peu vers la suite, comme on a commencé à le faire. Et demain soir, donc, on joue à Grenoble à 20h45 lors du multiplex. Je vais lancer le jingle prochain match.
Active Synthé Night Club. Le prochain match.
Alors, le prochain match, donc comme je le disais, c'est contre Grenoble. Est-ce que pour toi, Sylvain, c'est le déplacement idéal, Grenoble qui est un petit peu dans la panique en ce moment? Est-ce que c'est le match parfait pour engranger de la confiance? Ou est-ce que la proximité du match avec Bordeaux et l'énergie dépensée te fait peur?
En termes de déplacement, c'est le plus court de la saison. Donc déjà sur une semaine à 3 matchs, ça c'est intéressant pour la récup et pour la gestion des transports, etc. Je pense que après Jessy sait mieux que moi, mais je pense que ça c'est un paramètre non négligeable dans une semaine à 3 matchs. Après, je suis moyennement d'accord sur le fait que c'est une équipe en grande difficulté. Elle va un peu mieux depuis qu'elle a changé de coach. Elle est sur 2 nuls, 1 victoire, 1 défaite, alors qu'ils avaient une série absolument dingue depuis 2024, je crois qu'ils ont enchaîné 7 ou 8 défaites consécutives alors qu'ils étaient 3e de Ligue 2 et que tout le monde les voyait finir dans les 5 premiers. Le changement de coach commence à faire à faire son effet.
Ouais.
Voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre de ce match, honnêtement. Je suis très curieux, je suis à la fois optimiste parce que je pense que c'est une équipe qu'on doit quand même battre et sur laquelle on doit se montrer supérieur. Mais voilà, c'est aussi pas mal de particularités. Semaine à 3 matchs, ils auront peut-être besoin encore d'un ou 2 points pour être véritablement tranquilles par rapport à leur objectif maintien. Et puis s'ils viennent à gagner, ils auraient 48 points, sachant que Rodez en a 50. Bon, voilà. Je sais pas, c'est aussi peut-être un peu leur dernière cartouche à eux pour regarder plus haut et voilà, c'est quand même cette Ligue 2 est tellement homogène, tellement imprévisible que c'est franchement, je me répète à chaque émission, mais c'est vachement dur de se projeter
C'est dur de
là quand tu
pronostiquer cette
vois
saison,
pour
ouais. T'as peur du
mais
match,
c'est impossible
t'as peur du
quand
match
tu vois par
piège, toi,
exemple.
Jesse?
Ben, si on prend, j'ai le classement sous les yeux, on voit Saint-Étienne 3e en haut et on voit au milieu Grenoble 10e. Et puis, donc on se dit, ouais, c'est bon, on ventre mou, mais pas oublier que la 5e place, c'est une place de barrage et qu'elle est à 50 points. Et que, comme tu disais, Grenoble en a 45, ils sont qu'à 5 points, ils gagnent un faux pas de Rodez, ils sont à 2 points, ils le voient ça. Ils se disent, ah putain, on peut revenir à 2 points quand même du
Ouais.
barrage. Je veux dire que c'est pas une équipe qui est maintenue et qui a plus rien à jouer non plus. C'est quand même un groupe, comme tu disais, qui est revanchard parce qu'ils sont passés par une sacrée période difficile avec un nouveau coach, peut-être une saison à préparer aussi et des joueurs qui ont envie de se faire voir pour bien finir la saison. Donc c'est pas le pire déplacement, mais c'est pas non plus voilà, pas le prendre à la légère. Après pour En termes de déplacement, je pense que Grenoble, ils vont y aller en bus. Donc l'un dans l'autre, comme tu dis, c'est pas très loin. Donc oui, ça peut avoir un peu son effet de jouer moins loin. Maintenant, voilà, ils viennent de gagner 1-0. Ils sont sur une victoire eux aussi. Bon, contre Annecy qui est en difficulté, mais
Ouais. Mine de rien, pour le moral, ça compte.
ouais, bien sûr, bien sûr, ça compte énormément.
Je vous affiche sur le chat, sur le live, l'effectif donc tel qu'il était pour le match contre Bordeaux. Évidemment, il va y avoir des changements contraints, notamment Michael Nadé qui va devoir pardon, laisser sa place. Sylvain, tu verrais quoi comme changement, toi, par rapport au 11 qui a été aligné contre Bordeaux?
Je pense que déjà Batoubilsika va prendre la place de Nadé assez logiquement. Je pense que Tardieu va être titularisé dans le cœur du jeu, probablement à la place de Monconduit
Ouais.
ou de Chambost, parce que c'est vrai que Chambost il enchaîne beaucoup et il est une nouvelle fois pas sorti encore lors du match contre Bordeaux. Alors ça reste un joueur quand même qui a un coffre assez important en termes d'endurance, il est capable de répéter les efforts, etc., sur des courses longues, enfin, je veux dire en endurance, quoi. Voilà, donc peut-être qu'il rentrera Tardieu à la place de Chambost ou bien à la place de Monconduit, ça j'ai du mal à savoir. Après, pour moi, il touchera pas le trio offensif, même
Ok.
s'il va injecter du sang neuf, je pense, assez rapidement à l'heure de jeu. Et j'ai un doute sur cet aspect-là, mais je pense qu'il est possible que Ben Taïg connaisse une titularisation sur le
Ok.
côté gauche. Je trouve Petro un peu moins bien ces derniers temps. Voilà, Ben Taïg apporte un autre profil, peut-être moins de sécurité défensive, mais en même temps un apport offensif un peu plus intéressant, témoigne son centre sur le but vainqueur de Cardona. Je sais pas. Et en même temps, je me dis que Appia va rentrer et que la semaine, il va sûrement pas commencer cette fois-ci, mais qu'il commencera contre Caen. Donc que Petro, il jouera probablement pas contre Caen. Donc peut-être qu'il fera les 2 matchs de Bordeaux et de Grenoble et qu'il sera laissé au repos contre Caen. Ouais, une nouvelle fois, c'est pas facile. C'est
Casse-tête,
pas
ouais.
facile du tout.
Jesse, toi, déjà au niveau de la ligne défensive, est-ce que comme Sylvain, tu penses que Ben Taïg pourrait vivre une titularisation?
Ben, c'est vrai qu'il a bien fini le dernier match, Ben Taïg, et le coach a des fois tendance à démarrer un match comme il a terminé. Donc derrière, c'est le seul changement que je verrai, bon, à part un AD qui sort évidemment pour son carton rouge. Batu Binsika va le remplacer évidemment. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Après, oui, je pense que moi, je vois plus Dylan Chambaud sortir. Parce que, comme tu dis, il enchaîne beaucoup et c'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur sur le terrain. Donc, je pense que c'est pas dû à ça. À des performances un peu moins bien, mais surtout pour le préserver pour la fin de saison, parce que c'est des joueurs qu'on aura beaucoup besoin, des joueurs qui sont capables de courir et de faire les efforts tout le match et de montrer l'exemple. Et après, devant, on en parlait tout à l'heure, je pense que ça repartirait comme ça aussi. Et le top serait de pouvoir vite économiser des joueurs. Sur des ouvertures de score rapides de notre part et avec un match plus dans la gestion plutôt que d'aller chercher un résultat sur la fin.
Tu
Ça
me parlais
serait le top.
avant le début de l'émission de Lamine Fomba.
Ouais, mais visiblement, j'ai appris aussi que le coach avait fait une conférence aujourd'hui qui parlait de Lamine Fomba et qui disait que justement, il était un peu encore limite et qu'il avait du mal à retrouver son niveau aux entraînements. On en parlait tout à l'heure entre nous. Donc, je le vois pas remettre un joueur qui est peut-être pas en totale confiance sur le terrain. Même si j'en avais eu l'idée, mais je ne savais pas ce qu'il en était au niveau de sa reprise sur le terrain. Mais je vois plus Tardieu prendre la place à Dylan Chambaud et voilà, c'est du turnover aussi pour gérer l'état de fatigue parce qu'il y a 3 matchs cette semaine
C'est sûr.
et on va avoir besoin de tout le monde.
Petit pronostic, Sylvain, même si on vient d'expliquer en quoi c'était compliqué à pronostiquer, mais si tu devais dire un petit prono pour s'amuser, tu dirais quoi?
Victoire 2-0
Victoire
et
2-0.
avec le premier but de Wadji de la saison, parce que
Ah.
je l'espère sincèrement qu'il va débloquer son compteur but. Je suis convaincu qu'il jouera un rôle dans ce sprint final.
Il peut être important dans le sprint final comme il l'a été l'an passé. Toi, Jesse, tu dirais quoi?
Moi, j'aimerais bien un 2-0 à la mi-temps pour nous qui tient jusqu'à la fin du match.
Ok, comme ça on peut aussi faire reposer un petit peu les organismes.
Ça serait le top. Ouais.
N'hésitez pas dans le chat aussi à nous dire un petit peu vos pronostics. Justement, dans le chat, ils disent quoi par rapport au 11 de départ? Est-ce qu'il y a des changements qui sont attendus?
Bah on a beaucoup de messages pour voir Ben Taïg, qui sûrement a été apprécié par son entrée et sa fougue un petit peu de samedi soir. On a Nab Sainté qui nous dit il faut donner la chance à Ben Taïg. Meta Meta qui nous dit Ben Taïg n'est pas très serein, mais il court comme un fou furieux et à Sainté, on adore ça. Yannick sur YouTube qui nous dit il faut mettre Ben Taïg à la place de Petro, comme Brian qui nous dit il faut enlever Petro. Et on a du coup par rapport à Ben Taïg, on a MetaMeta qui nous dit ça vaut le coup de tenter le pari Ben Taïg, l'assise défensive est très bonne. On peut tenter un pari plus offensif avec bah, Ben Taïg du coup qui va essayer de d'amener un peu plus de fougue que peut le faire Petro qui a plus un profil de défenseur, bah, même qui était formé défenseur central donc c'est normal. Et par rapport à ce point-là, on a Frozy qui nous dit j'aime énormément Ben Taïg mais je le trouve qu'il a plus un profil d'ailier plutôt que de latéral. Donc, attention à ce qui peut se passer défensivement, quoi. Et là, on a des pronos qui viennent d'arriver, effectivement. On a Leïla qui nous dit victoire 1-0 de Santé. Joss Randall 2-1 pour Santé avec un but de Wadji, comme nous le dit Sylvain. Nico Saint-Paul qui rejoint Jesse, un 2-0 à la mi-temps. Ça serait très bien pour faire tourner en deuxième mi-temps. On a Boubou 85-42 qui nous dit 1 partout. Et on a Céline et Piazza le Breton qui nous disent 2-1 pour Saint-Étienne. Et sur YouTube, on a un Brian Stéphanois qui voit une victoire 3-0. Donc plus d'optimistes, mais on va pas cracher dessus.
Ok, eh bien, écoutez, parfait. Avant de terminer cette émission, vous le savez, comme chaque fin d'émission, on fait un petit quiz autour de l'AS Saint-Étienne. Je vous affiche le classement du Saint-Étienne Night Club. Petit rappel, Sylvain, tu joues pour quelle association?
Association Diamond Mouefek, à Loire.
Et Jesse, tu joues pour quelle association?
Moi, c'est Candy Colonne d'Espoir.
Ok, donc on rappelle le principe, hein, tous les revenus du Saint-Étienne Night Club de la saison seront reversés au chroniqueur qui a eu le meilleur ratio de points par émission. Quatre questions, on commence avec un qui suis-je habituel. Je vous lis la bio d'un joueur, vous devez deviner qui est ce joueur. Petit rappel, vous donnez d'abord votre prénom et ensuite je vous interroge et on voit si vous avez la bonne réponse. Je suis un joueur encore en activité, passé par l'AS Saint-Étienne. Joueur provençal, je fais ma formation dans les clubs du JS Istres, puis du FC Istres, où je commence ma carrière de joueur professionnel. J'y évolue en tant que pro pendant 3 ans avant de rejoindre le FC Sochaux-Montbéliard pour 4 saisons.
Tardieu, Tardieu. Ouais.
Tardieu, effectivement, Florian Tardieu,
Mon
bien joué.
copain.
Je me devais de commencer avec lui puisque c'est son anniversaire
Eh
aujourd'hui. Il fête ses 32
oui.
ans. Donc, joyeux anniversaire à Florian Tardieu. Un point pour Jessie. Deuxième question, question au plus proche. Le stade était bien rempli ce week-end. Je pourrais évidemment vous demander l'affluence de ce week-end, mais je suis sûr que vous la connaissez au spectateur près, donc ce serait pas très drôle. Il y aurait pas de challenge. Alors la question que je vais vous poser, c'est combien y a-t-il eu de spectateurs à Geoffroy Guichard qui sont venus au stade depuis le début de saison? Sylvain.
Ah, en plus, Carl, il nous l'a dit. Il nous l'a fait il n'y a pas longtemps, ce truc. Je m'en rappelle plus.
De toute façon, ça a dû mettre,
Attends que je
être mis à jour,
réfléchisse.
hein.
On a fait 17 matchs. On a tourné aux alentours de.
Alors, je vois que ça donne des affluences moyennes dans le chat. Évidemment, ne regardez pas le chat, hein, les chroniqueurs. C'est pas l'affluence moyenne que je vous demande, c'est le total de spectateurs.
Je dirais, allez, 500 000.
500 000,
Wow.
Jesse?
Putain, ça fait beaucoup, je trouve. 17 matchs, je prends moyenne de 20 000. Ouais, même plus maintenant. Putain, ouais, je dirais, allez, 400, 400, 420 000.
Oh là là,
420 000.
comme tu sous-estimes le chaudron, Jesse, c'est
Wow,
550 642
c'est énorme.
spectateurs qui sont venus à Geoffroy Guichard
Énorme.
cette saison. Un partout.
Je suis parti sur 28 000 de moyenne, tu vois, Jessie, sachant qu'ils
Ah ouais,
sont
moi je
sur
partais sur
4
25
matchs
quand
à
même.
quasiment. Ouais.
Eh,
Bon.
Troisième
j'ai pas une
question.
option.
Demain, on joue contre Grenoble. Grenoble, on les a déjà joués évidemment pendant la phase aller du championnat. Je vais vous demander les titulaires du match aller. Le premier qui se gourre a perdu. Et on va faire un tirage au sort pour savoir qui commence. Sylvain, ce sera pile. Jesse, ce sera face. Hop. Et c'est pile. Sylvain, je te laisse commencer un joueur qui était
Le
titulaire,
centre,
attention, contre Grenoble. Pardon?
Larsonneur.
Larsonneur. Effectivement, Larsonneur,
Larsonneur.
c'est bon. À toi, Jesse.
Briançon.
Briançon, c'est bon.
Cafaro.
Cafaro, c'est bon.
Fomba.
Bomba, c'est bon.
Apia,
Apia,
il a
c'est
fait tous
bon.
les matchs avant de se blesser.
Wadji, c'est pas
Wadji, c'est
blessé.
bon.
Sissoko.
Sissoko, c'est bon.
Mon conduit.
Moncondui, c'est bon.
Wow, ça commence à être chaud là. Batubinsika. C'était pas Navé qui jouait à Nice. Batubinsika.
Batubinsika, c'est bon. Si vous me faites un perfect, je suis dans la merde parce que j'ai pas prévu de question 5.
Non, mais là c'est un peu du pas du hasard, mais au milieu, j'hésite entre les trois qui restent, entre Chambaud, Tardieu ou mince, Moueffec. Je veux dire Chambaud.
Chambaud, c'est bon. Je reçois en même temps un message de Karl qui me dit grosse erreur, mon cun, total d'affluence à Geoffroy, 396 000 supporters cumulés, point pour Jesse. Alors, on va avoir une discussion parce que c'est pas la stat que j'ai vue, hein, moi. Hein. Je suis sur ASSE Stats, c'est pas ce qu'ils disent. Ok, il reste deux joueurs.
Ça doit être parcage cumulé, alors la stat que tu as vue.
Ah.
Deux joueurs, alors bah on a fait derrière, on a fait Apia, Briançon, Batoubine, Sika, donc l'arrière gauche. L'arrière gauche, Bentayg, il n'était pas arrivé encore, donc ça doit être Petro.
Petro, c'est bon.
Ça fait 11, non? Moi j'en ai fait 6 et Jessie en a fait
Ouais,
5.
ça fait 11.
Vous avez dit Bouchoirie?
Non.
Non, personne n'a dit Bouchoirie et je
Bien
viens de
joué.
le donner. Ok, bon, c'est un fail total pour l'instant ce quiz. Ok, très bien. Quatrième
Attends,
question et
attends,
je vais en
attends,
trouver une
attends.
cinquième dans ma tête rapidement.
Mais c'est pas possible. C'est pas
Non, parce qu'on a
possible
moi
qu'il y ait
j'en ai donné
Bouchoirie parce
5.
qu'on a dit Fomba, Chambost, Mon Conduit au milieu.
Ouais.
C'était bien Fomba, Chambost, Mon Conduit au
Mais oui,
milieu.
mais alors j'avais noté 12 joueurs. Oh là là là, c'est une
Non,
catastrophe.
Bouchoirie, il était à la Coupe d'Afrique U23. Il n'a pas commencé le premier match. Il est rentré à la mi-temps, si je dis pas de bêtises,
Ah,
si mes souvenirs sont bons.
peut-être.
Ah ouais, mais là,
Ouais, non, mais
c'est
bon,
trop au niveau des
écoutez,
connaissances.
vous avez fait un perfect, donc je vais trouver une cinquième question dans ma tête. En attendant, quatrième question. Comment s'appelle, et elle est facile celle-là, comment s'appelle le premier buteur de la SSE en championnat de l'histoire?
Oh.
Vous l'avez pas? C'est.
L'histoire de la Saint-Étienne,
Ouais.
de l'histoire.
Bon, c'est une blague, je suis
Vas-y.
sûr que vous ne pouvez pas la voir.
Ah ouais,
C'est
parce que.
Émile Chalvidan qui marque contre le SC Bastidienne à la 25e minute lors de la première journée de la saison 1933-1934 de seconde division. Bon, évidemment, vous ne l'avez pas, mais du coup, on va tenter autre chose. Question de rapidité. Qui a été le premier buteur de cette saison?
Soko.
Sissoko, effectivement, Sylvain, c'était Sissoko sur pénalty contre Rodez, où on avait malheureusement perdu 2-1. Et pour vous départager, il va falloir que je trouve une question rapidement.
Mais il est devant, je crois, non? Il y a
De
2-1,
quoi?
non? Il y a 2-1, non, là?
Il y a 2-1,
Il est
mais
devant, je crois.
normalement, j'ai un quatrième point à distribuer
Ah,
pour
d'accord.
que les scores soient OK à la
Ah
fin
oui,
de la
c'est oui.
saison. Alors, petite question, les Verts ont disputé leur premier match européen de l'histoire contre le FC Barcelone. Vrai ou faux? Jesse.
Ah, vrai, c'est pas là où c'est vrai, c'est pas là, c'est un match amical, non?
Ok, et Sylvain, t'es
C'est pas
d'accord? Tu
là
dis
où il y
vrai
a Jamie
aussi?
Jeannot qui fait le spectacle un peu.
Mais ça, c'était un match amical, c'était pas un match européen. La question, c'était. On est d'accord que la
Le
question,
premier match de
c'est est-ce qu'ils ont
l'histoire?
disputé là?
Oui, le premier
Le
match
match de
de
l'histoire.
l'histoire
Ah, de
européen.
l'histoire.
Ouais.
D'accord,
Ouais,
je
j'ai
croyais
dit faux,
quand ils
moi.
ont retrouvé l'Europe. Ouais.
J'allais dire, oui, mais bah attends, il y a eu des matchs de Coupe d'Europe avant. Attends,
Bah
t'es
oui, bien
sûr que
sûr.
t'es.
Bah oui, bien sûr. Non, non, mais je croyais que c'était du retour de l'Europe, tu vois.
J'aurais dit faux.
Contre...
Toi, tu dis faux, et toi, Jesse?
Eh ben, je vais dire vrai.
Eh ben, c'était faux. C'était contre les Glasgow Rangers le 4 septembre 1957 en 16e de finale de la Coupe des clubs champions européens. Bon, eh ben, écoutez, mon quiz est une catastrophe. J'ai bien foiré ce soir. C'est pas grave. On a un peu dépassé le timing. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour cette émission. Merci évidemment à toi, Gab, d'avoir été avec nous aussi pour le chat. Merci à ceux qui nous ont suivis sur YouTube et sur Twitch. Merci à ceux qui nous ont écoutés en replay également. Demain, on joue contre Grenoble et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer deux matchs. Donc soyez bien présents la semaine prochaine, lundi prochain à 21h. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao!
Merci à tous, bye.
Salut.